Le journal avec Patrick Vinciguerra. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Et on passe en revue avec vous ce sommaire de ce midi, midi 30.
Une édition largement consacrée à la grande manifestation d'hier à Ajaccio en hommage à Yvan Colonne. Retour sur le déroulé et surtout sur les réactions, dont celle ce matin d'Emmanuel Macron sur France Inter, le président candidat qui prévient pas de discussion, son retour au calme. Vous l'entendrez dans un instant. Nous entendrons également au cours de ce journal l'analyse de ces événements par le journaliste et écrivain Gabriel-Xavier Couillol. Il était ce matin l'invité de la rédaction. Et puis au menu aussi, la présidentielle. Le premier tour, c'est dimanche prochain. Et pourtant, apparemment, elle ne passionne pas les Corses. Beaucoup d'économies également dans ce 12h-12h30 avec le prix de l'essence à la baisse ces derniers jours, le prix du bois de chauffage à la hausse et les croisières qui repartent. Enfin, page sport avec l'ACA ce soir en déplacement à Nancy en Ligue 2 et une chronique consacrée à la boxe. Mais on débute comme promis par les déclarations d'Emmanuel Macron au lendemain de la manifestation d'Ajaccio. Manifestation qui s'est une nouvelle fois terminée en affrontement entre une partie des manifestants et les forces de l'ordre.
Ce que j'ai vu ce week-end est inacceptable, a donc déclaré Emmanuel Macron ce lundi sur France Inter.
Le président sortant, candidat à un second mandat, en effet déploré que des responsables politiques se soient positionnés en tête de cortège et affirme qu'il n'y aura pas de discussion dans ces conditions. Emmanuel Macron répondait à un auditeur, Stéphane, appelant de Corse, qu'il a interrogé sur la promesse faite d'autonomie. Le président candidat au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand lui a répondu.
J'ai pas changé de ligne depuis mon discours de Fourian en 2017 comme candidat et mon discours de Bastia en 2018 comme président. Il se trouve qu'il y a eu quelque chose qui est grave et inacceptable, l'assassinat d'Yvan Colonne en prison. Je l'ai dit et je le répète, Yvan Colonna n'est pas un héros, il a été condamné à plusieurs reprises, il a été le lâche assassin du préfet Erignac, mais dans le même temps, la République ne peut accepter qu'un détenu soit ainsi abattu dans ces conditions par un autre détenu. Et donc c'est pour ça aussi que je prendrai des mesures très claires sur la base des rapports et de l'ensemble des faits qui me seront donnés pour que ce soit sanctionné. Ceci a créé une émotion toute particulière en Corse et une indignation et a donné lieu à des violences, en particulier dans la jeunesse. J'ai souhaité, et ça a été le
Stéphane vous dit pourquoi le mandat. Pourquoi l'autonomie?
Attendez,
pourquoi avoir donné l'autonomie?
J'explique. Personne n'a donné l'autonomie. Et je veux ici rassurer Stéphane. Je te redonne le contexte. Ça a donné lieu à une violence qu'on n'avait pas vue depuis des années chez les jeunes. Le ministre de l'Intérieur y a été. Je redis maintenant les choses très clairement. Un, la clarté sera faite et les décisions seront prises sur ce qui s'est passé en prison. Deux, le calme et le retour à l'ordre est un préalable à toute chose. Et ce que j'ai encore vu ce week-end est inacceptable. Inacceptable. Y compris avec des responsables politiques en tête de cortège. Donc moi, il n'y aura pas de discussion avec des gens qui se comportent comme ça. Trois, je suis, moi, favorable à toute évolution, mais si elle répond aux besoins de la population. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il n'y a pas de tabou. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Ensuite, pour moi, l'autonomie n'est pas un objectif en soi. Et donc, le ministre de l'Intérieur a dit tout est possible et est à discuter. Mais ce que je souhaite plutôt faire, c'est un, qu'il y ait un apaisement. Moi, je pense que la République est importante pour la Corse et la Corse est importante pour la République. Et que ce à quoi il faut qu'on œuvre, c'est un, le retour au calme. Deux, que les missions soient bien accomplies. Et moi, je veux vous inviter à regarder, Stéphane, ce qu'on a fait ces 5 dernières années. Sur des compétences qui étaient celles de la collectivité. Nous avons pris nos responsabilités. Parfois, nous l'avons fait sur les déchets, sur l'énergie. Et donc, voilà, je veux un retour au calme, un travail avec la collectivité et son président, Gilles Siméon. Et je pense que les grands débats politiques aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui répondront le plus aux besoins de la Corse, qui est un besoin de respect, de considération, mais de bon fonctionnement et de retour au calme.
Retour au calme souhaité par Emmanuel Macron et dont l'absence pourrait remettre en cause, on l'a entendu, le premier acte des discussions avec Paris prévu ce vendredi. Après Corté et Bastia, la troisième grande manifestation en hommage à Yvan Colonne hier à Ajaccio, en effet était marquée par des violences. Elle avait pourtant démarré dans le calme depuis les Salines, direction le centre-ville et la préfecture de région. Ils étaient 4000 selon la police, 14000 selon les organisateurs. Mais au-delà de l'habituelle bataille de chiffres autour du nombre de manifestants, le cortège était composé d'élus nationalistes, de citoyens, mais aussi une nouvelle fois de jeunes prêts à en découdre. Paul Hortley.
Merci d'être là en mémoire d'Yvan. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. C'est sur ces mots de la famille Colonne que s'est disloqué le cortège hier sur la place du Diamant. Et aussitôt, de jeunes émeutiers cagoulés, brassards orange et cocktails Molotov en main se ruaient vers le commissariat à la préfecture pour engager les violences. Un signe que la colère ne retombe pas et que la génération Colonne, née après l'assassinat du préfet Rignac, place haut la barre des revendications. Pasquale Epicori, de la Juventù Independentiste.
Les revendications, je vous les ai citées, la libération de nos prisonniers politiques, la reconnaissance du peuple corse, par nos revendications que nos élus ont portées pendant des années, que cela soit la coefficialité de la langue corse, le statut de résident qui ont été votés à l'Assemblée de Corse démocratiquement. Dans un pays où on ne respecte pas la démocratie, le peuple doit aller dans la rue.
La rue justement ne désemplit pas et le bruit qu'elle fait résonne jusqu'à Paris. À une semaine du premier tour, dixit le député Paul-André Colombagne.
Nos jeunes nous disent qu'ils n'ont plus confiance dans la parole de ce gouvernement. Il y a une élection très importante, le premier tour de l'élection présidentielle dans quelques jours, et malheureusement cette mobilisation n'est pas près de faiblir. Il n'est pas question pour nous de se servir de ça comme moyen de pression quelque part sur le gouvernement. Mais on aurait depuis 5 ans aimé discuter d'une autre façon. On n'avait pas arrêté de leur dire que les planètes étaient alignées pour avancer vraiment sur le dossier corse. On n'a pas été entendu et aujourd'hui on en paye le prix.
Qui peut canaliser cette révolte des jeunes et les partis politiques qui l'utilisent peuvent-ils encore la gérer? Cette question pèse sur le processus politique qui s'ouvre le 8 avril. Place Beauvau.
Et le bilan de ces affrontements, Patrick, a été revu à la hausse.
27 personnes ont été blessées, dont 12 parmi les forces de l'ordre. Selon des sources policières, c'est 12 blessés de plus par rapport au bilan donné par la préfecture de Lille hier soir. Parmi ces 27 blessés, il y en a 15 parmi les manifestants. 5 ont été sérieusement brûlés aux mains et une femme a été blessée au mollet. 40 personnes ont par ailleurs été prises en charge par les pompiers. Au total, plus de 2800 grenades, notamment de gaz lacrymogène, ont été utilisés par les forces de l'ordre, ainsi que des lanceurs d'eau. 3 immeubles pour un total d'environ 500 personnes ont été évacuées après des débuts d'incendie. De plus, 3 voitures et des conteneurs ont été incendiés. Enfin, une personne a été interpellée lors de la manifestation de Fourriagne après des heurts entre des manifestants et les forces de l'ordre. Et cette nouvelle manifestation a été marquée également par un tag injurieux sur le mur d'entrée du musée Fesch visant Laurent Marcangeli, inscription qui a provoqué sur les réseaux sociaux de nombreuses réactions d'indignation et de soutien au maire d'Ajaccio, côté nationaliste, de Gilles Siméon à Marie-Antoinette Maupertuis, en passant par Jean-Christophe Angelini ou Jean-Baptiste Arène de Corinfront. Tous condamnent ces attaques, condamnation aussi à droite bien sûr, mais aussi à gauche, avec notamment Jean-Charles Orsucci, réaction aussi de l'intéressé ce matin, il le remercie pour les messages de soutien. Laurent Marcangeli qui cite une phrase de René Descartes: « Chaque fois que quelqu'un m'offense, j'essaie d'élever mon âme si haut que l'offense ne peut l'atteindre. » Et puis dans un communiqué, la LDH apporte son soutien à Laurent Marcangeli. Elle s'inquiète, la Ligue des droits de l'homme, de certaines réactions de haine. Voilà, nous reviendrons sur ces événements dans un petit moment avec notre invité de la rédaction qui était ce matin, Gabriel Xavier Couillouli.
RCFM, midi, midi et demi, l'info.
12h08 et Patrick, tous ces événements risquent évidemment de peser sur la campagne présidentielle. Beaucoup d'électeurs en Corse sont désorientés.
Il faut dire qu'entre la guerre en Ukraine, le Covid qui fait son retour et donc le contexte politique tendu chez nous, cette campagne électorale paraît bien loin des préoccupations de la population. Si beaucoup d'entre nous iront bien sûr voter dimanche prochain, nombreux sont ceux qui pensent que les élections ne changeront rien ou pas grand-chose à leur vie, comme en témoigne ce reportage signé Guillaume Amadei.
Il faut que ça change, il faut aller voter. En conséquence, c'est bien réfléchir à ce qu'on fait. Oui, oui, c'est primordial.
Il me semble que ça peut changer quelque chose, en ce sens que on risque d'avoir une surprise sur le nombre d'électeurs, qui sera peut-être un peu plus faible que les autres campagnes présidentielles.
C'est pas que ça change rien, ma vie, c'est que pour le moment, je m'y suis pas intéressée. Je me dis, on a encore 10 jours, donc j'attends de voir.
Comment en fait, c'est pas comme chaque année depuis 30, 40, 50 ans, ça n'a jamais été transcendant. On vote soit à défaut pour pas que ce soit quelqu'un qui soit passé, mais on ne vote pas non plus pour la personne parce que waouh, c'est incroyable. C'est le dernier président qui a marqué l'histoire, c'est De Gaulle. Et puis,
Souvent, dans le meilleur des cas, ce sont des bluffeurs, dans le pire des cas, ce sont des escrocs.
Une des préoccupations, la première même des Français, le pouvoir d'achat, un pouvoir d'achat fortement grevé par la hausse du coût de l'énergie. Mais bonne nouvelle ces derniers jours, en tout cas, petite consolation, vous l'avez sans doute constaté, à l'entrée des stations-service, depuis vendredi, le prix du sans-plomb ou du gasoil est bien redescendu, fini le litre à plus de 2 euros. Le gouvernement vient de faire une remise de 17 centimes par litre sur l'île, mesure qui va durer au moins jusqu'à la fin juillet, de quoi soulager un peu le porte-monnaie avec des automobilistes qui respirent un peu. Théo Cobel, vous en avez rencontré.
1,79 le sans-plomb, 1,82 le gazole. Autant dire que certains automobilistes ont cru y voir flou.
Je suis restée surprise, encore plus ça s'est allumé, je me suis dit, je m'en vais faire, je vais profiter alors.
Et pour cette Ajaxienne, une essence à moins de 2 euros, c'est le soulagement.
Parce que jusqu'à maintenant, elle était remontée, c'était trop quoi. Puis on se posait des questions par rapport à pour aller travailler. Je veux dire, tout notre budget partait sur l'essence parce que c'était la bouffe et l'essence. Après c'était fini, on ne pouvait plus avoir de plaisir, enfin, c'était fini tout ça.
Quoi. Alors là, elle reste respire un peu. Même soulagement pour Nathalie qui vient de remplir le réservoir.
Il y a 8 jours après, c'était il y a passé 2 euros. Là, donc, non, 1,79, je suis ravie. On va dire qu'on ne fait pas le plein avec plaisir, mais presque.
Surtout que sur un plein, cette ristourne peut représenter entre 5 et 10 euros d'économie. Mais certains auraient aimé un coup de pouce plus important de la part du gouvernement. C'est notamment le cas de Toussaint.
Bon, je pense qu'on pourrait mieux faire. Ça suffit sans suffire. Quoi. C'est bien aujourd'hui, mais peut mieux faire. Et c'est-à-dire que là, ça va sûrement remonter. Je pense que l'État pourrait bloquer au niveau des taxes, ou du moins baisser les taxes.
Et attention, ce week-end, toutes les stations de l'île ne proposaient pas encore cette baisse. La faute à des cuves remplies trop récemment avant la ristourne. L'ensemble des stations devraient mettre à jour leur prix au plus tard dans la semaine.
Et place à présent à notre invité de la rédaction. On revient sur les événements qui secouent la Corse depuis plusieurs semaines.
Et notamment la grande manifestation d'hier à Ajaccio, en hommage à Yvan Colonne. Pour en parler, Hélène Battini recevait ce matin Gabriel Xavier Couillot, journaliste et écrivain.
RCFM, l'invité de la rédaction.
Bonjour Gabriel Xavier Couillot.
Bonjour.
Est-ce que les événements d'hier sont de nature à compromettre les discussions attendues ce vendredi, selon vous, ou se cacher derrière ces violences, ce serait finalement pour le gouvernement avouer qu'on n'a pas les moyens de tenir ses engagements ?
Non, je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse, mais cela dit, à 3 semaines des élections, vous pensez bien que le gouvernement n'a pas beaucoup de pouvoir, hein, parce que dans 3 semaines, le gouvernement est démis, et on attend le prochain gouvernement. Ça veut dire que, pour moi, c'est un peu des discussions qui ont été faites pour calmer les violences, mais ce qui se passera de sérieux arrivera bien après.
Oui, de plus, est-ce que le résultat de la présidentielle, peut-être même déjà du premier tour, pourrait finalement servir d'argument aussi ? On peut penser à un bon score de Marine Le Pen, par exemple, au niveau national, plus spécifiquement ici, elle qui est clairement contre l'autonomie.
Oui, mais je ne pense même pas que ce soit un argument, je pense que c'est une réalité. Hein. C'est que d'abord, il y a la présidentielle, et ensuite, 3 mois après, il y a la législative. Et il n'est pas du tout assuré que le président Macron, s'il est élu, ait une majorité, ce qui fait que toutes les discussions, enfin tout ce qu'a promis Darmanin de manière très très imprudente, tomberait à l'eau de ce fait-là. Hein.
Les violences, Gabriel Xavier Couillot, on l'a dit, elles continuent. La mobilisation aussi, la jeunesse, on l'a entendu. Est-ce qu'il est juste de dire la jeunesse corse
déjà ? Non, ça c'est des espèces de termes essentialistes qui m'énervent un peu, parce que la jeunesse corse, donc, quand il y a 100 personnes qui se battent dans la rue, ça exprime un malaise, hein, c'est certain, d'autant plus que les manifestations sont importantes. Mais c'est pas la jeunesse, et c'est comme c'est pas le peuple corse. Pour l'instant, il y avait 10 000 personnes dans la rue. Bon, a priori, en Corse, il y a, disons, 340 000. Alors, si les nationalistes veulent faire les puristes, disons qu'il y a 200 000 Corses. Et 200 000, c'est pas 10 000. Hein. Il y a une grande majorité des gens. Enfin, moi, je côtoie des gens, entre guillemets, normaux, si j'ose dire. Et c'est des gens qui, d'abord, se sentent très français, en même temps que très corse, hein, et qui, quand ils entendent français de merde, sont révulsés.
Justement, un élu s'est fait un petit peu le porte-parole d'une partie de l'opinion ce vendredi, lors de la dernière session. Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio et le président donc du groupe de droite, est-ce que il a subi des insultes, des injures donc hier soir sur les murs de la ville, on l'a entendu dans nos journaux. Est-ce qu'on peut être touché par le sort d'Yvan Colonne et en même temps soucieux du quotidien aujourd'hui ? Visiblement, c'est compliqué.
Mais moi, je sais pas, mais en tout cas, moi, je le suis, parce que je trouve que Yvan Colonne aurait dû être ramené sur sa terre il y a bien longtemps. Évidemment, il n'aurait pas dû être assassiné, ça, c'est une évidence. Mais cela dit, je veux dire, je trouve que la dernière manifestation qu'il y a eu était une manifestation qui était, une manifestation d'hommage, mais qui, en tout cas, avec en banderole Statu Francese ou Assassine, ou c'est-à-dire le mot d'ordre qui avait été lancé quand Gheorzsony avait été enlevé et assassiné, c'était un mot d'ordre qui est complètement inopérant,
oui,
puisque justement, les élus vont à Paris pour discuter avec l'État. Donc, quand vous allez discuter avec quelqu'un, vous ne lui lancez pas la figure espèce de boule de merde ou Statu Francese ou Assassine.
Justement, au début de cette interview, on parlait de ce qui peut se passer vendredi. Ceux qui sont dans la rue, le disaient encore sur notre antenne aujourd'hui, ils sont dans la rue pour les revendications qu'ils estiment essentielles, la co-officialité, la reconnaissance du peuple corse. Et paradoxalement, ce sont les lignes rouges qui sont déjà posées. Qu'est-ce qu'on peut attendre et comment penser que la mobilisation s'arrêtera, puisque leurs arguments sont toujours valables, vraisemblablement?
Oui, mais alors écoutez, d'abord, il y a une chose, c'est que je trouve que toute cette discussion autour de la Constitution n'est pas absurde, elle est inopérante. Et ça, Vanda Mastor, en tant que professeur constitutionnaliste, a porté son soutien à cette... C'est idiot, ça ne peut pas marcher. Parce que je rappelle que pour changer la Constitution, il faut ou le Congrès réuni et les deux tiers des voix, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement, ou alors il faut que il y ait un référendum, et le référendum émettrait évidemment un avis négatif. Parce qu'il faut comprendre que pour en France, faire une réforme constitutionnelle qui aboutirait à une forme de girondisme, c'est-à-dire de décentralisation, c'est une révolution, parce que la Corse n'est pas seule. Il y aurait la Corse, mais il y aurait aussi le Pays Basque, il y aurait la Bretagne, il y aurait l'Alsace, etc. etc.
Ah justement, si on compare un peu les... Est-ce que l'autonomie, c'est le seul chemin entre indépendantistes et jacobins? Selon vous, la Corse se croit plus riche qu'elle n'est?
D'abord, elle n'est pas riche du tout, donc si elle se croit riche, elle a tort. Et la deuxième chose, c'est que derrière le mot d'autonomie, on ne sait pas du tout qui met quoi. Il est très vraisemblable que pour un indépendantiste, c'est le chemin vers l'indépendance. Pour Gilles Simeone, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est qu'un concept. Hein. Et il faut mettre un programme derrière. Et c'est justement là où il y a un flou. C'est-à-dire qu'en Corse, on est spécialisé. Alors on saute sur place, on crie indépendance, on crie autonomie. Et puis après, quand on a... En admettant que l'autonomie soit faite, ce sera laquelle? La polynésienne? Ce sera la canade?
Le gouvernement, mais selon vous, donc on doit arriver avec le bagage, avec quelque chose dans la valise en tout cas.
Bah, il vaut mieux, hein. Puis surtout, il vaut mieux être unis, parce que pour l'instant, moi je trouve que la manifestation d'hier est un raté, non pas du point de vue numérique, mais du point de vue programmatique, parce que justement, vous aviez des gens qui n'ont pas du tout le même programme, qui étaient dans la rue, alors c'est quoi leur unité? Ils se disent tous nationalistes, mais tous avec des programmes différents. C'est comme si vous preniez la gauche depuis Besancenot jusqu'à, je sais pas, Jean-Pierre Chevènement, et vous dites c'est à gauche. Oui, c'est à gauche, mais comme tout le monde a un programme différent, c'est pas comme ça qu'on va négocier.
Quel impact donc aura cette désunion? Est-ce que ça se passera comme à La Réunion, par exemple? On en a parlé ces derniers jours. Réponse vendredi, le temps passe très vite. Merci beaucoup Gabriel Xavier Couglioli d'avoir été avec nous en direct ce matin.
RCFM, toute l'info.
Et on ouvre à présent une large page d'écho.
Qui débute par notre chronique écho, on parle tourisme. Quelle tendance pour le début de saison, avec d'un côté la levée des restrictions sanitaires et de l'autre le contexte de hausse des prix et les tensions dans l'île? Quel impact? Théo Cobel est allé poser la question aux professionnels.
RCFM, l'économie.
Le mois d'avril marque le début de la saison touristique, alors moyenne saison, mise en route, mais c'est quand même le début du retour des touristes. Sauf que cette année, ils semblent prendre leur temps pour revenir. Benoît Chaudron représente le premier groupe hôtelier de Corse et les réservations sont loin des niveaux habituels.
Alors, en taux d'occupation, on va être à un bon moins 10% d'un taux d'occupation normal d'un mois d'avril ou d'un mois de mai.
Parce qu'on est combien habituellement?
On va être entre les 50 et 80, suivant les établissements que j'ai. Là, on va plutôt avoisiner les 40 sur le mois d'avril.
Un taux de remplissage faible à tel point qu'il revoit sa politique de recrutement.
On avait déjà des difficultés de recrutement, donc le recrutement qu'on a fait, même s'il est moindre que d'habitude, suffira au moins pour passer le mois d'avril sans problème. Ce problème de manœuvre sera compensé par le fait qu'il y ait moins de clients.
Du côté des transports, on est moins pessimiste. Les taux de réservation sont plutôt bons pour ce début de saison, même si on le constate beaucoup, beaucoup de dernières minutes. Quant à l'été, c'est le flou absolu. Pierre Minguy est le directeur commercial de Corsica Linéa.
Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une rupture de tendance à partir du démarrage de la guerre
en Ukraine, alors que la tendance était plutôt positive dans les semaines qui précédaient. Les Français ont arrêté leurs projections de vacances, impressionnés un peu dans l'expectative par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et puis sans doute aussi en voyant l'impact à court terme du pouvoir d'achat, et donc avec des questionnements sur ce qui pourrait se passer sur les prochains mois.
Sans parler des événements qui secouent l'île en ce moment, mais cela ne veut pas dire que la saison sera mauvaise pour autant. Signe d'espoir, pas ou très peu d'annulations. Karina Goffi est la présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Corse.
Je pense que ce sera un report dans le temps. Si on parle de groupe, il ne confirme pas, il pousse ses options. Après, on n'a pas de gens qui nous appellent en nous disant on a peur, on ne vient pas, ou on n'arrive pas à se projeter, on annule. Chose qui se passait pour le Covid. Après, l'individuel, il avait bien démarré. Et là, on sent vraiment que la réservation individuelle commence à être en attente.
Des professionnels qui le rappellent néanmoins, depuis le Covid, les réservations de dernière minute sont courantes, et puis certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres. C'est notamment le cas des gîtes, pour qui les taux de remplissage sont déjà intéressants pour l'été.
Toujours au chapitre économie, on s'intéresse à la filière bois et notamment au bois de chauffage, avec un constat: pour réduire la facture d'énergie, certains rallument leurs cheminées, les chanceux qui en ont. Du coup, Guillaume Amadé, les ventes de stères de bois augmentent.
Une hausse entre 12 et 18%. Il faut dire que le froid a un peu boosté les ventes. Autre facteur, la hausse du prix de l'essence a poussé nombre de personnes à recourir au bois de chauffage. Marien Luciani, exploitant forestier à Vivario.
En fait, ça nous a servi tremplin sur les commandes. Et dès que, par rapport aux livraisons, on a dû augmenter notre prix, et là, ça nous a pénalisé.
Résultat, les commandes sont retardées et une grande partie du bois sera livrée dans les prochains mois.
Sauf qu'on a beaucoup de commandes en attente de livraison, où les gens, ils attendent la baisse du carburant, si on peut faire une remise sur le prix du bois. On est monté quand même de 85 € la terre livrée sur certaines communes à pratiquement 100 €.
La demande de bois de chauffage augmente un peu plus chaque année en Corse, et cette hausse, due à l'augmentation des prix à la pompe à essence, se heurte à l'augmentation des prix de l'essence. C'est un cercle vicieux. Christophe Amadei, exploitant forestier en Haute-Corse.
La consommation de bois augmente d'année en année en Corse, de plus en plus. Là, je suis en train de produire tout le bois pour 2022-2023. En 2022, je vais être obligé d'augmenter le tarif parce qu'effectivement, pour ça, des fois, les clients, ils comprennent pas bien. Mais monsieur Amadei, le carburant est redescendu. Le bois a été coupé il y a huit mois, on était en pleine hausse. Vous, pendant ce moment-là, vous n'achetez pas de bois, mais moi, il fallait que je fasse fonctionner les machines.
Le prix d'une stère de bois avoisine désormais la centaine d'euros et les prix devraient encore augmenter l'année prochaine.
Économie toujours avec notre chronique Méditerranée qui se penche aujourd'hui sur la reprise d'activité du secteur de la croisière. Les premiers grands bateaux de croisière ont accosté ces derniers jours à Ajaccio. Selon les prévisions, après deux années blanches, surtout l'année 2020, la saison de croisière devrait dépasser des records en termes d'escale cette année dans les ports de l'île. On voit donc cela avec dans Mare Ladino avec le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud, Jean-Yves Batteste, qui répond aux questions de Jérôme Souzini.
RCFM en Méditerranée.
Jean-Yves Batteste, en voyant cette activité de croisière sur la Corse du Sud, plus exactement, on a l'impression que ça démarre un peu plus tôt que d'habitude et que ça bouge pas mal.
Plutôt que d'habitude, non. C'est une période... Alors, on revient bien sûr aux années avant la pandémie, bien sûr. Et non, c'est la période habituelle, mois de mars, un redémarrage. Par contre, par rapport aux précédentes années avant Covid, on peut constater, en tout cas dans la programmation, qu'on a une année, pour ce qui concerne les croisières dans l'ensemble de la Corse du Sud, une année record. Prendre pour exemple déjà le port d'Ajaccio, où il est prévu qu'on ait 227 escales.
Une augmentation sur Ajaccio, mais aussi sur Porto Vec. Par rapport à Ajaccio, la dernière période de référence, c'était 2019.
Le record avait été en 2016. On avait eu 210 escales, 212 escales, je me rappelle bien. Et effectivement, vous constatez donc une reprise, certes, mais une reprise importante. En occultant les événements actuels, on peut dire simplement que les personnes, après le Covid, ont envie de voyager de nouveau. On va voir donc l'impact que peuvent avoir les événements actuels.
Les ports de Corse du Sud, à tout le moins, attendent à bras ouverts ces croisiéristes et leurs bateaux qui sont de plus en plus grands. C'est ce qu'on remarque aussi.
Il y a eu, en tout cas, oui, Ajaccio peut accueillir ce genre de navire, un navire de grande taille. Il y en a en tout cas dans la programmation, pour certains même de nouveaux navires, des compagnies qui prévoient faire venir donc ces nouveaux navires avec là aussi une volonté de développer l'activité à Ajaccio.
Jean-Yves Batteste, merci beaucoup pour ces précisions sur la croisière qui, on va dire, redémarre en tous les cas de partout en Méditerranée et en Corse.
Et vraiment, le constat qu'on peut faire, hein, on a plus de 470 escales, 473 escales sur toute la Corse, ça veut dire effectivement qu'on peut constater une reprise, hein, de cette activité.
Allez, on referme ce midi 30 avec du foot et en Ligue 2, le déplacement ce soir de l'ACA à Nancy, en baissé de rideau de la 31e journée de championnat.
Face à des Lorrains, lanterne rouge de la compétition, les Ajacciens se voient offrir la possibilité de reprendre la deuxième place du classement de Ligue 2. Une victoire permettrait aux rouges et blancs de prendre un nouveau souffle alors que le sprint final est lancé. Les joueurs d'Olivier Pantalone et l'entraîneur sont-ils prêts à relever le défi? La réponse donc de l'entraîneur ajaccien au micro de Patrick Orr.
J'espère qu'ils sont prêts, parce que si on n'est pas prêt aujourd'hui avec une opportunité comme ça, tout le monde a regardé attentivement les résultats, ils sont plus ou moins favorables, mais d'une manière générale, je pense qu'ils le sont quand même. Après, on ne peut pas vivre une fin de saison qu'en attendant des résultats favorables de nos adversaires, ou défavorables de nos adversaires, qui nous soient favorables. Il va falloir, à un certain moment, on a notre destin aujourd'hui entre nos mains, avec ce match de Nancy, à nous à faire en sorte de profiter des derniers matchs de nos adversaires directs pour essayer de repasser devant. Ça nous donne l'opportunité, en cas de victoire, de retrouver la deuxième place. Il y a d'adversaires en face, hein. On ne joue pas contre personne, qui est 20e, certes. Aujourd'hui, les résultats de leurs adversaires directs, à eux aussi, ils ne sont pas bons. Donc, eux aussi ont la possibilité de passer de 8 points à 5 points. Il restera ensuite cette journée. Ce n'est pas négligeable. Il va falloir, nous, qu'on soit prêts à livrer une grosse bataille pour se donner les moyens de gagner ce match.
Nancy ACA, une rencontre à vivre ce soir en direct et en intégralité sur notre antenne dès 20h45. Et on conclut avec de la boxe dans notre chronique sport. Marc-André Agastellani s'est rendu dans la salle du ring Bastier, en Ribourt, in lingua australe.
RCFM, le sport.
Si parla poco e si travaglia assai. In da sala di ring bastiaccio, mentre gli boxori preparano la sosenza, Ugo Saoli è di già andato in ring con Jean-Mathieu Albertini, l'entrenore e formatore. Le jeune Pedro Albinco a fait il y a quelques mois le choix de partir sur Paris pour multiplier les combats, les expériences et les perspectives en boxe. On l'écoute.
J'ai décidé de partir pour mon sport. Il y a plus de monde, donc logiquement plus de styles différents, plus de mises de gants. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Il y a énormément plus logiquement de structures, plus de choses à faire.
Ugo Saoli multiplie donc les combats et progresse, comme nous l'explique son coach formateur Jean-Mathieu Albertini.
Très belle progression, boxe très bien techniquement, sa progression elle est constante, voilà. Rien ne remplace la compétition, c'est bien beau les entraînements, les rounds de sparring, les rounds de sac, les leçons, mais rien ne remplace la compétition. Il a eu la chance d'être dans un club qui lui trouve assez de combats, hein. Il a eu cette chance, je crois que, comme je lui ai dit, c'est un des boxeurs cette année licencié en France qui a boxé le plus presque en gala.
Suffisamment d'expérience pour regarder devant avec de nouvelles perspectives. On écoute Jean-Mathieu Alberti.
La prochaine grosse étape va être à la rentrée des championnats régionaux. Je crois qu'il a un bon coup à jouer pour se qualifier au championnat de France.
Aspitant du Berazigur, à l'occasion est d'y boire Buxan Corsica.
Ah, bien sûr, là, j'attends énormément ça. Et dès que ce sera le moment, je serai là. Hein. Je serai prêt, je serai là. Et ce sera un grand plaisir de reboxer chez les miens, chez moi. Et Avec tout le monde.
E con ritorno aspettato, cadunicerà di sicuro i numerosi passionati di box in Corsica.
RCFM.
Et 12h28, avant de faire un point sur la météo, ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 4 avril à la mi-journée, Patrick.
Emmanuel Macron a jugé inacceptable les violences hier en Corse et affirmé qu'il n'y aurait pas de discussion sans retour à l'ordre préalable. Le président candidat l'a dit ce matin sur France Inter, ce que j'ai vu ce week-end est inacceptable, y compris avec des responsables politiques en tête de cortège, a précisé Emmanuel Macron, au lendemain donc d'affrontements lors de la manifestation en hommage à Yvan Colonna, une nouvelle manifestation à laquelle participaient de nombreux élus nationalistes, dont Gilles Sibéoni, le président du Conseil exécutif de Corse. Le retour à l'ordre est un préalable à toute chose, a prévenu le chef de l'État. Il n'y aura pas de discussion avec des gens qui se comportent comme cela, a-t-il affirmé, alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était engagé à ouvrir des négociations sur l'ensemble des problématiques corses, dont l'évolution institutionnelle vers un statut d'autonomie restant à préciser, une réunion qui devait se tenir vendredi. vendredi à Paris et dont on ne sait aujourd'hui à cette heure-ci si elle se tient encore. Et le bilan de ces affrontements a été revu à la hausse. 27 personnes ont été blessées, dont 12 parmi les forces de l'ordre, selon des sources policières. C'est 12 blessés de plus par rapport au bilan donné par la préfecture de Lille hier soir. Parmi ces 27 blessés, il y en a 15 parmi les manifestants. 5 ont été sérieusement brûlés aux mains et une femme a été blessée au mollet. Au total, plus de 2800 grenades, notamment de gaz lacrymogène, ont été utilisées par les forces de l'ordre, ainsi que des lanceurs d'eau. 3 immeubles, pour un total d'environ 500 personnes, ont été évacués après des débuts d'incendie. De plus, 3 voitures et des conteneurs ont été incendiés. Et cette nouvelle manif a été marquée également par un tag injurieux sur le mur d'entrée du musée Fesch visant Laurent Marcangeli, inscription qui a provoqué sur les réseaux sociaux de nombreuses réactions d'indignation et de soutien au maire d'Ajaccio, côté nationaliste, de Gilles Sémione à Marie-Antoinette Maupertuis, en passant par Jean-Christophe Angeline ou encore Jean-Baptiste Arène de Corinfronte. Tous condamnent ces attaques, condamnation aussi à droite bien sûr, et à gauche avec notamment Jean-Charles Orsucci, réaction aussi de l'intéressé. Il remercie pour les messages de soutien Laurent Marcangeli, qui cite une phrase de René Descartes: « Chaque fois que quelqu'un m'offense, j'essaie d'élever mon âme si haut que l'offense ne peut l'atteindre. » Et puis voilà, il y a aussi du foot ce soir, et avec en Ligue 2 le déplacement de l'ACA à Nancy en baissé de rideau de la 31e journée de championnat face des Lorrains, lanterne rouge de la compétition. Les Ajacciens se voient offrir la possibilité de reprendre la deuxième place du classement. Nancy ACA, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur notre antenne dès 20h45.